Vous on espère, c'est assez hardcore. Tu peux y aller.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 17 novembre 2012. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Ja Not Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89,1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre documentaire animalier que vous attendez tous.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de la Cinémathèque de Toulouse pour le festival Extrême Cinéma. Alors d'abord, nous tenons vraiment à remercier quand même l'équipe de la Cinémathèque, l'ensemble des moyens techniques de la Cinémathèque et l'équipe de Radio FMR pour nous avoir fait cette opération complètement délirante qui est de faire une émission dans une salle de cinéma, et qui plus est, il y a de la vidéo qui tourne derrière. Il s'agit d'un mix de Skin Max, on le met juste, c'est plus facile à gérer. Parce que là, c'est un peu le bordel, et c'est normal. Ce soir, ça va être le gros bordel dans la cinémathèque, on va en parler.
Allez, deux gros mots en 30 secondes, ce serait bien. Tu fermes les copains.
Je commençais à avoir un petit peu peur. Alors d'abord, bien évidemment, il y a Franck Lubé qui est dans la salle, je le vois tout au fond. Et on a bien évidemment Professeur Thibaut qui est là, qui sont donc nos hôtes. On a... S'il vous plaît, notre grand spécialiste de la 7ème dimension. Ça va, Spikrine ?
Merci.
Ça lui est dit.
Mais une Spikrine, normalement, ça fait peau de fleurs. Lui, il va pas faire ça. Et on a des musiciens qui arrivent, s'il vous plaît. Bah, rentrez ! Rentrez ! Mais non, on peut y aller. Pour une fois, on peut bouger pendant la séance.
Allez, on va finir de présenter l'équipe quand même. Sushi est parmi nous également.
Salut à tous.
Du sport.
Bonjour.
La forme. Allez, tout le monde est prêt.
D'abord, je tiens franchement à remercier Fred Thibault. C'est vrai que j'étais pas là la semaine dernière, mais en tout cas, au moins, vous me faites une spéciale animaux. Ça me fait plaisir parce qu'on évite une spéciale vampire.
Oui, c'est mieux. Hein.
Oui, c'est mieux parce qu'on serait tapé Twilight. Là, c'est quand même. Enfin, il y a le nouveau film qui sort, mais au moins, ce qui me fait plaisir, c'est la dernière fois qu'on va entendre parler de Twilight, je pense.
On aurait pu parler de la nouvelle tenue de Kristen Stewart, qui était très très bien d'ailleurs, mais c'est un autre débat.
Oui, tout à fait.
Je connais le nom de l'actrice et tout. Impeccable.
Oui, oui, non, mais on est fort, on est fort. On est fort, on est professionnel ici et tout ça. On va accueillir donc deux des musiciens. Alors, je crois que j'ai pas la bonne fiche, bien évidemment. Et évidemment, ça m'aurait surpris. Mais en tout cas, en attendant...
On va leur demander de se présenter de toute façon.
On va leur demander tout à l'heure. Mais avant ça, du sport, je vais te demander de faire la rubrique nécro. Bah, t'as oublié ta feuille.
Sans fiche, ça va être vachement dur.
Ah mais elle est où ta fiche?
Elle est là. Il me l'a piqué pour faire l'intro.
Vas-y.
Voilà, ouais. Alors, c'est bien parce que Xavier, généralement, quand il a pas envie de faire un truc, il te refile le ballon de bâton merdeux, il te dit vas-y, c'est ton domaine, il n'y a pas de problème.
En plus, il t'a écrit ta chronique en plus.
Ouais, mais en plus, c'est écrit. Moi, j'ai horreur de ça, généralement. C'est pour ça que ça va peut-être pas le faire. Et comme on va pas faire d'émission de sport après, quoi, je voulais quand même signaler la disparition de Patrick Edlinger.
Alors, de France 3.
Spider-Man, le vrai Spider-Man, l'homme araignée qui s'est fait connaître dans les années 80, qui grimpait les falaises à main nue, qui s'était un petit peu retiré en 95 parce qu'il avait quand même eu un accident grave, il avait fait une chute de 18 mètres, quelques jours de coma, des problèmes cardiaques, mais enfin bon, il grimpait plus que pour le plaisir. Et c'est quand même le type qui a révélé à toute une génération, on va dire, dans les années 80, le plaisir de la grimpe, mais autre chose que l'alpinisme classique, c'est-à-dire les grosses montagnes et tout, le fait de pouvoir grimper absolument pratiquement n'importe où et sans assistance. Alors maintenant, au niveau de la nécro, c'est le mec qui s'appelle Denis Avner de Nice. en fait, et qui est un vrai homme félin, qui est donc mort, disparu cette semaine à l'âge de 54 ans. Et c'était un vétéran de la Navy, hein, à savoir la marine américaine. Et il a eu une révélation quand un chef indien, Huron, lui avait conseillé de suivre la voie du tigre. Ouais. Et le mec, il a commencé à se transformer, mais alors physiquement, avec tatouages, piercings, opérations de chirurgie esthétique. Il est même rentré pratiquement dans le Guinness Book des records avec le nombre de transformations corporelles subies sur sa personne. La majeure partie de son corps a été transformée par Steve Howers, un des pionniers des modifications corporelles. Et ce dernier avait reconstruit ses lèvres, ses dents, ses oreilles, son visage, afin que Dennis Havner ressemble vraiment à un félin. Chirurgie des oreilles, lèvres supérieures, des joues, il s'est fait aplatir le nez, avait coupé ses lobes d'oreilles, avait subi des implantations de silicone dans le front. Dennis Havner avait été jusqu'à se faire greffer des crocs, et toutes ces chirurgies ont quand même coûté la bagatelle de 150 000 $. Avec 150 000 $, on fait un film pas mal généralement.
Oui. Non mais vous verrez quand même, vous verrez la gueule de prof Thibault là en ce moment. On est en train de projeter des photos de lui. Voilà,
ouais, non, mais c'est pour ça très bien.
Ouais, c'est pour ça. Alors pour un ami de l'homme tigre, il souhaitait atteindre l'essence spirituelle du monde animal. Il voulait se transformer en femelle tigre pour explorer les frontières, non seulement des espèces, mais aussi des genres. Dennis était une personne merveilleuse à la personnalité très complexe. Il était parfois troublé, mais ne laissait personne indifférent. Et bien alors, en fait, c'était quoi son vrai boulot?
C'est un peu la question.
Et là, t'as la haine de ne pas avoir un documentaire sous la main sur ce type-là, hein, pour la programmation.
Il doit y en avoir un. Je sais qu'il y en a un sur un homme chat, en fait.
Bah, c'est lui.
Non, c'est pas lui, parce que l'homme chat, il avait un problème avec sa
queue.
Si, c'est vrai, en fait, il y avait personne qui pouvait lui faire une extension, alors il était super déçu. Et en fait, c'était fabriqué une espèce de petite queue électrique avec un petit moteur.
La gestuelle, c'est derrière. Hein, c'est une queue de chat. Voilà.
T'as l'esprit mal placé, toi. Hein, ouais.
Non, mais je pense à nos amis auditeurs qui n'ont pas l'image. Hein.
Donc voilà. Ce soir, soirée de clôture d'Extrême Cinéma.
Ah oui.
Grande première, il y aura un ciné-concert. Alors, bien évidemment, on va demander au groupe de venir. Pour parler quand même, oui, c'est le jeu des chaises musicales, mais ça c'est.
Il nous manque une chaise là, ouais.
Mais je pense que on va se débrouiller sans trop de problèmes. Donc j'ai même oublié le. Ah, c'est toi qui est mon planning, ouais. J'ai honte. Goat River.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous voyez comme
Bonjour.
Ça, ils sont tout timides et tout ça, mais ils font du doom metal.
Non, pas metal, doom tout court.
D'accord. Donc, vous faites du doom en bois, en acoustique, c'est ça ?
Non, mais doom tout court. Stoner voilà. Doom.
Voilà. Donc, présentez-vous. Ça fait combien de temps que votre formation a été créée ?
Bonjour. Alors, le groupe existe depuis 2007, je pense. Premier concert au printemps 2008. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà sorti des singles ou des albums
Alors, on a deux albums et un split 7 pouces.
Ok, et il y a possibilité d'écouter sur le net et tout ça.
Un 7 pouces, vous savez, c'est un vinyle.
C'est un EP, en
40,
fait.
45 tours, c'est voilà. La taille, 7 pouces.
Voilà. Mais non, mais attendez, mais quitte à discuter, mais piquez le micro bleu, voilà.
Non, mon collègue n'est pas d'accord sur notre discographie.
Non, je me posais la question pour les néophytes que je respecte, de savoir qu'était donc un split 7 pouces.
Un split 7 pouces. C'est pas un format d'écran donc.
Du tout.
C'est un format de disque vinyle, les plus petits, ceux qu'on appelle les 45 tours, et les splits parce qu'on l'a partagé. Il y a une face, c'est nous, et l'autre face, c'est des copains à nous. Voilà. Donc il y a un morceau à nous sur une face et deux morceaux aux amis sur l'autre face. Et on l'a sorti en 2010.
C'est pour ça que je reconnais pas, c'est pas le morceau sur l'autre face en fait.
Non, le morceau sur l'autre face, c'est pas nous. C'est pour ça. Ça va beaucoup trop vite pour nous en fait. On ne serait pas capable de le faire.
C'était très clair. Là on s'y retrouve.
Et le dernier disque en date, c'est un double LLP, un double album. Parce que les morceaux sont très longs, donc ça rentrait pas sur un simple. En fait, les auditeurs entendent le bruit désagréable que j'ai dans le casque là à l'entrée.
Oui.
D'accord.
Non, est-ce que les auditeurs entendent?
Là, j'ai un son qui est très propre. Il y a juste la musique, ce que tu appelles.
Non, j'entends.
Parce que nous, on entend. Ouais, le.
On appelle ça une masse.
Cool,
ça.
Alors je sais pas, j'arrive, non, c'est peut-être une émission conceptuelle, je sais pas.
Oui, non, mais sur FMR, tu sais, on est une radio alternative. Un coup ça marche, un coup ça marche pas.
Ouais, je,
voilà,
ouais,
c'est le principe. De ce côté-là, on s'éclate toujours, quoi.
D'accord. Bon, désolé, les auditeurs, je vais vous laisser avec ce bruit désagréable, je vais enlever mon casque.
Vous, justement, non, mais vous, justement, quelles sont. Est-ce que vous avez des influences musicales Est-ce que, je ne sais
non,
pas.
C'est totalement original.
Bam on pioche allègrement dans tout un répertoire d'un genre qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant. Et voilà. On a commencé par Black Sabbath et jusqu'à leurs héritiers.
Il a la voix très petite, douce.
Oui,
t'as vraiment peur ou quoi?
Non.
Tu t'économises pour ce soir.
On fait une musique instrumentale, donc il n'y a pas de chœur, donc la voix, c'est pas besoin
d'accord.
de l'économiser.
C'est vraiment c'est vraiment l'instru pur jus.
Quasiment, donc, il y a quelques morceaux avec de la voix.
D'accord. Sur la programmation, quand ils sont venus, ils vous ont proposé en fait de faire le ciné-concert.
Je n'étais pas là.
Vous n'étiez pas là. Vous savez pas quel film en fait, vous les avez vus au moins?
Oui, on les a vus. Oui.
Est-ce qu'ils vous ont vraiment inspiré derrière ou d'autres morceaux du coup?
Vaste question.
Comment dire ?
Alors, il y a trois films. Il y a donc le mystère du poisson volant,
ouais.
avec Douglas Fairbanks, qui fait 25 minutes, qui est un film, on va dire, à caractère comique des années 20. Après.
Sur fond de
drogue, c'est vrai, tu as raison. Ensuite, il y a un autre film des années 20 qui s'appelle Devoir de vacances, mais là, je ne sais pas trop si on peut en parler plus que ça, qui est, comment dire, une farce
professeur Thibault dit oui.
Zoophile.
Voilà, qui est une fantaisie pornographique, j'ai envie de dire.
Zoophile.
Je ne l'ai pas dit, apparemment.
Moi, j'y tiens.
Et voilà, avec une intervention d'un petit chien fort mignon et très débrouillard. Je suis étonné des idées qu'il pouvait avoir dans les années 20 en matière de sexualité, mais après tout, je suis très candide, j'imagine. Et le dernier film s'appelle La Bonne Pipe, et comme l'a écrit Franck Lubé, c'est comme son nom l'indique.
On,
je crois que c'est comme ça que tu l'as.
On y viendra tout à l'heure, effectivement.
Mais là voilà, là, on n'en dira pas plus sur La Bonne Pipe.
Non, ce serait un petit peu gâché sur tout le reste. Qu'est-ce que cela vous fait d'être dans une vénérable institution qui est quand même sur le circuit national et tout ça, et de se dire on va jouer de nuit? Est-ce que déjà c'est un la peur de l'Office de la Tranquillité de Toulouse, où les mecs ils sont des fous, hein. Ils sont prêts à couper le jus d'un quartier pour faire baisser ta sono. Hein.
On ne sera pas les plus emmerdés dans l'histoire. Mais...
Voilà, ou c'est se dire c'est quelque chose de prestigieux, ou finalement vous y allez décontracté du gland parce que vous avez suffisamment bu avec toute l'équipe. Hein.
Décontracté, je sais pas. Est-ce qu'il fera nuit? Je sais pas non plus. Il fera peut-être jour en fait. Ça va dépendre de l'heure. Parce que là, on est parti pour 6h30, 7h du mat. Donc il fera peut-être jour. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est une très bonne. Pas une opportunité parce que c'est pas un plan de carrière, mais c'est vraiment cool de pouvoir faire ça, quoi. Enfin, je pense que c'est la seule fois de notre vie où on pourra jouer déjà sur un film. Parce qu'une fois qu'on aura joué, on ne le reproposera jamais, ça c'est clair. Et qui plus est, la Cinémathèque de Toulouse, noble institution effectivement. Bon, ça va.
Et est-ce que votre performance de ce soir, quelle sera la part d'improvisation? Est-ce que vous êtes allé piocher dans un répertoire qui n'avait pas encore été sorti? Quelle est la part d'inédit en fait?
On n'a pas vraiment eu le temps de composer exprès.
Donc ça va être un impro.
Donc on a réarrangé des morceaux à nous qui existaient déjà.
Et nous avons fait appel à un cinquième membre.
On est quatre d'habitude, on sera cinq.
D'accord.
Okay. D'accord. Et qui fera la cinquième patte, un étalon faire un porno
Non.
Thomas est désespéré parce qu'il voit que j'ai placé une blague trop tôt, c'est tout. C'est, en fait, c'est dans la page 25 du script. Oui,
c'était pas maintenant, d'accord.
Donc voilà, il y aura en fait la vraie plus-value de cette soirée, ce sera
la chèvre à cinq pattes.
Voilà, la chèvre à cinq pattes, c'est ça. Et le cinquième membre qui donc jouera du térémine.
Waouh, voilà. Vraiment de l'électronique primitif.
Exactement.
Donc vraiment de l'époque en plus, hein, puisque le térémine ça a des années 20, années 30 il me semble. Quels sont vos prochains concerts pour ceux qui n'auront pas la possibilité de venir ce soir?
Alors on répète tous les mardis. Si vous voulez venir mardi prochain, on répète pas, mais mardi suivant, c'est avec plaisir. C'est
le centre commercial de la Belge.
Voilà, ouais. Vous voyez les Asiatides, bah, juste derrière. En fait. Parce que sinon, non, rien. Et je doute qu'on ressorte de là avec des propositions, en fait. Mais peut-être. Donc là, pour l'instant, non, rien. Alors on pourrait dire que on va se recentrer sur nous-mêmes pour pouvoir créer, composer, faire un nouveau disque, peut-être. Mais ou peut-être pas. Mais là, pour l'instant, non, après, pas grand-chose. En fait, on a plus joué avant. Là,
oui, on a beaucoup joué le mois dernier, en fait. Il y a quand même une actu.
Mais professeur Thibault, comment tu as fait pour les repérer? Sinon, s'ils ont des trucs sur 7 pouces, ils y répètent dans les centres commerciaux, comment tu as fait
pour les repérer?
Oui.
Bon, c'est facile parce que je travaillais avec un et je cherchais des gens qui puissent jouer gratuitement.
Comment casser le mythe en 3 secondes et demie? On aurait dû commencer par ça, en fait.
Et le pire, c'est que c'est vrai. Puisque j'ai mon bureau à 2 mètres de celui du professeur Thibault. Clientélisme, oui, c'est vrai.
Donc du coup, vous êtes...
C'est très dégueulasse.
Donc du coup, comme vous êtes vous-même dans l'enceinte de la Cinémathèque, vous voyez passer des films complètement barges et tout ça. Il y a certains que vous auriez préféré orchestrer plus que la sélection qui a été prise.
Alors, moi, mon rêve, c'est pas tant une orchestration, mais ce serait qu'il y ait un vrai festival de films institutionnels à la Cinémathèque. Parce que je suis passionné par les films d'entreprise et particulièrement par les films produits par la Caisse régionale d'assurance maladie.
C'était vraiment très intéressant.
Voilà, ça vient effectivement de là. Mais bon, évidemment, là, il y a déjà une bande de son qui est généralement extraordinaire.
Oui.
Mais ensuite, non, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir de plus beau cadeau que particulièrement Le Devoir de Vacances, ce film, cette fantaisie isophile. Ça, c'est vraiment une grande chance. Et cette bonne pipe qui est... Rien que dépend... Enfin, bref.
On va voir ça, effectivement. Après, bon, ben, je pense qu'on va déjà découvrir votre musique cette nuit, fort tardivement. En général, à vos concerts, c'est plutôt bière ou c'est plutôt Red Bull?
Moi, je prends ni l'un ni l'autre, en fait.
Dans le public, je sais pas.
Dans le public, il vaudrait mieux que les gens prennent des trucs, je pense, pour tenir ce soir. C'est fort possible. Enfin, moi, je fais pas l'apologie. Après, faites ce que vous voulez. Mais
on verra ça.
On va quand même rappeler le concept du ciné-concert, s'il y en a qui ne savent pas. Donc, c'est des projections sur grand écran dans la salle classique. Sauf qu'il y a un groupe, justement, qui joue en live. Donc, ça permet d'enrichir le morceau et aussi d'avoir vraiment un côté vraiment très impro, très, très sympa sur une projection de film après. A priori muet qui aurait enfin ça raconte une nouvelle histoire avec une compo originale par dessus, donc ça c'est tout à fait intéressant.
Non mais n'exagérons rien, n'allons pas trop loin, mais c'est à peu près ça. Oui,
mais c'est vrai qu'en général ces films là étaient accompagnés par une bande son au piano avec des mélodies quand même assez enjouées, rapides, qui contrastent assez avec la musique qu'on fait. En général c'est assez lent et pas très enjoué.
Alors moi j'ai une question, en fait, parce que vous arrêtez pas de poser des questions, mais moi j'en ai une.
Qui êtes-vous? Je viens d'arriver.
Mais c'est sur éphémère.
En fait, j'ai envie de lancer un débat, mais on n'aura peut-être pas le temps.
Vas-y.
Ouais,
vas-y.
Ce serait de savoir entre Patrick Cliffhanger et Edlinger et l'homme tigre qui en fait s'est rapproché le plus d'un idéal, parce que Patrick Edlinger montait sans assistance. Je me rappelle très bien des films qu'on voyait dans les années 80 ou les années 90, peut-être à Ushuaïa Nature, ou voir des fins de programme sur France 3 avec ces films qui devaient durer un quart d'heure, 20 minutes, où on le voyait monter comme ça. C'était complètement mystique. Alors mystique Patrick Edlinger, mystique l'homme félin, est-ce qu'au final il se rapprochait pas un petit peu de la même chose?
Le débat est lancé.
Vous avez 4 heures.
Non, mais on va devoir libérer la salle avant.
J'aimerais rajouter un petit truc. Est-ce qu'on peut parler des Yamakasi ou pas encore? Non.
Pourquoi?
Ça sera
pour les hommes félins qui vont sur.
Ouais, les Yamakasi, c'est pas que félin, c'est aussi reptile des fois.
Ce sera peut-être pour le prochain.
En tout cas, merci de recentrer le débat et dit sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre.
Exact.
Et de typiquement.
Non, mais moi, je voulais poser une question un peu plus terre à terre au niveau du groupe. Parce que ça, bon, vous avez déjà un petit peu de background, de 2 albums, vous êtes ensemble depuis 3 ans, 4 ans, hein, vous avez déjà fait pas mal de concerts. J'aimerais savoir, en concert, quel est votre meilleur et votre pire souvenir de concert?
Oh, bon, les pires, heureusement, sont loin. Au début, on n'était pas très... Bon, c'est pas qu'on soit plus au point maintenant, mais on était encore moins à l'époque. Donc il y a eu quelques fois où c'était... ça s'était pas hyper bien passé, notamment une fois où ça doit être notre 3e concert, je pense. On nous a proposé une première partie dans une très grosse salle. Et on était clairement pas prêts, ça a été un petit peu la catastrophe. Et les meilleurs, non, je sais pas, on a fait plein de concerts
Sympa. Ben, la semaine dernière, on était en mini tournée avec des copains à nous, qui le groupe Bitter Choup Choup We Lose. Et on est parti sur la route 3-4 jours avec eux. On s'est vraiment bien marré. On a bien joué en plus.
Ça c'est assez rare pour être précisé.
Alors moi, mon meilleur et le meilleur et le pire souvenir de concert, c'est le même en fait, et c'est, je crois que c'est pas avec Got River, et c'est quelqu'un qui à la fin du concert m'a dit: j'ai rien compris à ce que vous faites. Et j'ai trouvé ça parfait.
Mais
c'était pas avec Got River, je crois pas. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit: ça sert à rien ce que vous faites aussi.
C'est mignon.
On va rappeler peut-être où on peut écouter vos morceaux alors sur
un site web ou quelque chose comme ça.
Oui, on a un site web et on est présent sur quelques réseaux sociaux aussi, malheureusement.
Et là, tu fais de la pub, alors augmente le décibel là.
Bonjour, vous pouvez nous retrouver sur internet grâce au moteur de recherche à la. À la vitesse de votre modem, vous tapez Got River comme la rivière de la chèvre ou du bouc et vous tomberez forcément sur nous ou sur une rivière qui se trouve en Colombie-Britannique au Canada.
Et ah, comme quoi.
D'accord.
Voilà. On va rappeler les horaires à quand est-ce qu'on peut voir le ciné-concert. Est-ce qu'il reste des places pour ce soir en fait?
Oui.
Bon. Alors, les horaires, vous jouez à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure?
On va bien le savoir.
À quelle heure on joue Alors, la soirée commence à 22h.
Ouais, et c'est 22h tapante. Si vous n'êtes pas dedans à 22h, c'est foutu.
C'est plus compliqué.
Ouais.
Et nous, on est susceptibles de jouer n'importe quand à partir de ce moment.
C'est ça.
Ah, d'accord. Waouh. Ok, bah alors, merci en tout cas.
Aux alentours de 6h30, monsieur Thibault, monsieur.
7h.
Voilà, on joue à 7h.
Du matin ou du soir?
Du matin.
D'accord.
Du matin. Bah merci.
Oui, c'est idiot.
Merci Got River. Vous écoutez le Super Weekend sur Radio FMR. On va faire une petite interruption musicale, le temps de mieux se placer en fait, hein, parce que là, voilà, c'est un peu à la bonne franquette. C'est un petit mashup, c'est rien que pour vous. Et je suis désolé pour ceux qui sont dans la salle puisqu'ils n'ont pas le son en fait.
Yeah!
c'était donc Wax Audio qui a fait un mashup, donc Thunder Monster. Donc vous avez reconnu, il y a un film et un grand classique du rock, c'était forcément à passer. Nous sommes en direct de la Cinémathèque de Toulouse pour le festival Extrême Cinéma.
Attends, je reprends mon micro, il était sur le pied. Alors on va enchaîner, on a notre table Thierry Zeno. Thierry Zeno, bonjour.
Bonjour.
Avec le voilà. Plus près du micro, on va y arriver.
Oui, voilà. Bonjour tout le monde.
Alors, donc on est honnête, on n'a pas vu vos films, mais on a vu que vous aviez fait un long métrage. On avoue qu'on a eu peur quand même quand on a vu le pitch. Plutôt que ce soit nous qui présentions le film qui est présenté justement à ce festival Extrême Cinéma, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un film réalisé en 1974 qui s'appelle Vase de noces.
Oui, il faut peut-être prévenir ceux qui sont en train de se raser maintenant, de faire attention de ne pas se couper, ou s'il y en a qui sont à bord de leur voiture, de ne pas brûler un feu rouge. Donc l'histoire, je vais la résumer de manière très simple, et je vous dis tout de suite, après je vais vous dire que l'histoire n'est pas importante, hein, que ce n'est pas l'histoire, le sujet du film. Mais c'est vrai que c'est un film qui a pu faire scandale au Festival de Cannes, c'était en 1975, à la semaine de la critique, parce que ça racontait l'histoire d'un homme solitaire, éperdument amoureux d'une truie. Oui, c'est déjà pas banal, mais une truie, la zoophilie, quelle horreur, quel scandale. En fait, moi je me souviens qu'étant adolescent, j'étudiais les mythologies grecques, latines, plein d'histoires d'êtres humains qui procréaient par l'intermédiaire et par la joie de copuler avec un autre animal. Parce que l'homme est aussi un animal, hein. Alors, si le film s'arrêtait là, les gens diraient « Oh, ben, ça peut être mignon à voir, finalement, cette espèce de...
» Oui, tout le monde a en tête, hein, oui. Babe, par exemple.
Non, parce que, attention, parce que non seulement il vit une grande liaison qui a l'air vraiment passionnée avec cette truie, mais il y a trois porcelets qui naissent. Donc, vous voyez, hein, là, j'enchaîne en disant, vous voyez que l'histoire, en soi, n'a pas un intérêt primordial, parce que c'est tout à fait... je pense, impossible, tout point de vue. Donc, bien sûr que nous ne sommes pas au niveau d'une histoire réaliste, mais nous sommes en plein dans les mythes, en plein dans les fantasmes, en plein dans les archétypes. Alors, qu'est-ce que c'est que le cochon? Le cochon, chez nous, c'est symbole de volupté, de bassesse, de sexualité. Ce n'est pas toujours comme ça. Par exemple, dans les pays asiatiques, le cochon est signe de richesse. Le cochon... peut être un symbole de très grande fertilité. Ça peut être un peu quand on voit, j'ai filmé en gros plan les tétons de la truie, la main qui caresse.
On voit dans le trailer justement.
Mais ce ventre de la truie, c'est magnifique. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir le symbole de la maternité, de la fertilité, et pas du tout le symbole de la bassesse. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces trois petits porcelets? L'homme, bien sûr, les accueille comme étant ses propres enfants. On voit qu'il les dorlote, il tricote des layettes, il leur donne le biberon. Et puis, catastrophe, hein. Moi, j'aime autant raconter l'histoire puisque le film est passé. Hein, donc, il n'est pas déflagré.
On n'est pas dans spoiler.
Il est toujours accessible, on peut toujours l'acheter sur Internet, mais enfin, je vais continuer l'histoire. Et on a l'impression que les jours vont s'écouler paisiblement avec ces trois petits cochons qui sont bien sûr avec une référence historique à Walt Disney. Hein. Et c'est un jour, ces trois petits cochons, on les retrouve pendus. Donc, grande ellipse dans le scénario, dans le montage du film. Alors, on n'explique pas pourquoi ils auraient pu être pendus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas pendus eux-mêmes. Mais ce qui, en tout cas, est certain, c'est que la truie, voyant les porcelets pendus, exprime un chagrin, mais un chagrin incommensurable. Elle hurle à mort, et on peut dire vraiment que c'est littéralement hurler à mort, puisque ce sont ses cris, ses propres cris, lorsque les fermiers, plus tard, ont tué mon actrice. Hein. On a enregistré, on n'a pas filmé la séquence, mais on a enregistré le son et on a enregistré ce cri déchirant du cochon qui sent qu'il va mourir. Et puis, donc, on voit cette truie qui tourne en criant et qui, elle, d'après le scénario et d'après ce que l'on peut deviner en voyant le film, tombe dans un puits et se suicide. Voilà pour la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors comment justement, puisque en fait vous n'êtes pas principalement réalisateur, hein, je crois que vous enseignez dans la bande dessinée.
Non, pas du tout.
C'est lui en diagonale.
Il a lui en diagonale là.
C'est l'invité suivant, ça peut-être.
Ah pardon, ah, non, je me suis trompé.
Directeur d'académie d'art et dessin.
Non, en fait, je suis quand même principalement réalisateur, hein, puisque j'ai
pardon.
Après Vase de noces. Bon, long métrage qui est quand même sorti en salle. Hein. J'ai fait un autre long métrage, mais lui documentaire, qui a eu également une exploitation en salle de cinéma. Et après ça, je me suis tourné vers le documentaire, donc aussi comme réalisateur, des documentaires plutôt de type ethnographique ou bien des films sur l'art. Alors il se fait que parallèlement à ce travail de réalisateur, j'étais professeur de cinéma et de vidéo. Et puis maintenant, je dirige l'académie dans laquelle j'enseignais précédemment.
Alors, les tournages avec les animaux sont réputés assez difficiles. On le voit beaucoup dans les bêtises. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés particulières à tourner avec, avec un cochon? Est-ce que vous avez nécessité plusieurs cochons? Comment s'est passé le tournage?
En fait, c'était un tournage tout à fait hors norme, hein, on pourrait dire. C'était tout à fait expérimental. Et peut-être j'aurais pu dire que j'ai démarré en fait, dans le cinéma expérimental, hein, Vase de noces. Pour moi, étant un petit peu à la limite entre les deux, je l'ai tourné finalement avec cette idée de tourner un film expérimental, avec une narration complètement cassée, non rationnelle, non linéaire, en attachant beaucoup d'importance au son et aux images, hein, un peu comme une œuvre plus formelle que narrative. Et il se fait que Vase de noces a quelque part été pris dans le circuit d'art et d'essai. Et je trouvais que c'était pour moi une chose extraordinaire. Et alors pour répondre à votre question, donc c'est vrai que ce film a été tourné d'une manière tout à fait expérimentale et tout à fait exceptionnelle. On a commencé ce film sans argent. J'avais ma caméra 16 mm. Le comédien, qui était un ami depuis très longtemps, qui lui, dans l'école où moi j'avais étudié le cinéma, lui il étudiait l'art dramatique. Et une troisième personne, le preneur de son. Et alors on est parti s'enfermer dans une ferme pendant à peu près un mois. Avant ça, on avait fait nos emplettes. Hein. On avait contacté des fermiers dans les environs. Donc on avait la basse-cour, on avait la truie que les fermiers nous ont prêtée, mais à la condition bien sûr de bien la traiter, hein, et de lui rendre après.
Les conditions, c'était d'enregistrer ses cris quand il allait la tuer après.
Non, je veux dire, en fait, on n'a pas acheté la truie. Hein, oui. On l'a simplement empruntée comme ça, puis on l'a rendue au fermier. Et alors, c'est vrai, par exemple, lorsque les gens nous disent « Oh là là, mais vous êtes vraiment des gens sans cœur de prendre une truie et puis de la tuer pour votre scénario », ben non, c'est vrai que cette truie est morte, mais parce qu'elle a vécu sa vie de cochon, hein, et elle a terminé dans l'étal d'une boucherie. Je pense qu'on lui a quand même donné, parce que c'est un animal très très sensible, hein, ceux qui connaissent un peu les animaux savent que la truie finalement est très très proche au point de vue du comportement et même au point de vue du métabolisme, très proche de l'homme. Et nous on a eu cette relation avec la truie comme on aurait pu l'avoir, mais je dirais même mieux qu'avec un animal dit domestique, hein, parce que c'est bien sûr, c'est un animal qui va être attentif à l'être humain, attentif aux gestes, au repas qu'on lui donne, à l'attention qu'on lui prête, mais qui ne va pas avoir un comportement d'animal domestique qui va se mettre sur les deux pattes arrière, il y a quelque part une espèce d'anthropomorphisme chez certains animaux, tandis que là nous voulions vraiment que ce soit avec la truie, les porcelets ou les autres animaux de la basse-cour, les respecter en tant qu'animal à part entière.
Comment votre film a-t-il été reçu au cours de cette projection pendant le festival, puisque vous étiez là pour défendre le film aussi et
oui,
le présenter?
Mais d'abord, il faut dire que le film a été tourné en 1974. Hein. On n'avait pas dit, ce qui rend déjà l'expérience assez exceptionnelle, parce que c'est vrai que des films tournés en 1974, avec le réalisateur toujours vivant en plus, il y en a de moins en moins quand même. Et ce film a eu, malgré son côté provocateur, malgré son côté expérimental, le film a eu une chance extraordinaire d'avoir... chaque année, je suis encore invité à aller le montrer par-ci par-là. Récemment, il y a une édition en DVD en Allemagne, puis dans un pays nordique. En fait, c'est un film qui a continué, malgré les peu de moyens financiers que nous avions pour le faire, qui a continué à être vu et à être discuté. Peut-être est-ce dû justement aux réactions du public et les réactions de la critique qui étaient complètement controversées.
Du lard ou du cochon?
Mais en fait, il y a vraiment des gens qui ont vu ce film au premier degré, même certains, et encore dans la salle, lorsque le film a été projeté ici il y a deux jours, des gens qui demandent si c'est un documentaire sur un malade mental, tellement ce comédien joue bien. D'où ce mal à l'aise du spectateur, surtout s'il a ce doute pendant toute la projection, en disant quelle horreur filmer un malade mental se comporter de cette façon-là. Ou si on sait que c'est un comédien, à ce moment-là, on le voit, on voit le film disons, d'une autre manière, on voit plus le symbole que la relation par rapport à la vie normale.
Ça laisse pas indifférent, quoi.
Alors bon, il y a eu des gens qui l'ont vraiment traîné dans la boue, j'ai eu des problèmes avec la censure dans différents pays. Notamment en France, finalement, le film est passé, mais lorsqu'on a fait la demande du visa de censure, on a même discuté à l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, c'était Poniatowski, ministre de l'Intérieur, qui a parlé du film à l'Assemblée nationale pour dire ce film belge ne passera pas en France.
C'était pas juste au moment où Giscard voulait passer les films porno à 33%.
C'était au moment où il y a eu le classement X des films, donc c'était une sorte de censure déguisée, parce qu'effectivement, on disait voilà, vous pouvez sortir le film, mais il est classé X. Alors que, bon, les amateurs de films X, ils seraient vachement déçus en voyant mon film.
Pas tous.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est vraiment une censure déguisée parce que le fait qu'il y ait une taxation beaucoup plus élevée fait que le distributeur ne va pas retirer l'argent qu'il espère, le directeur de la salle non plus, et c'est une manière d'étrangler les films. Il y a d'autres films où il est carrément interdit, mais je veux dire, dans la plupart des films, dans la plupart des pays où j'ai proposé le film, je n'ai pas eu ce genre de soucis.
J'ai des questions. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi dans les fictions et pourquoi vous êtes retranché sur le documentaire et puis devenu enseignant ensuite ?
Oui, c'est-à-dire, bon, je ne voulais pas faire n'importe quel type de fiction. Pour moi, la fiction devait être avant tout un travail de création et pas un métier, un métier au sens banal du terme. On travaille pour gagner ses sous et pour vivre. Pour moi, c'était vraiment un investissement artistique. Et je me suis rendu compte que des films comme Vase de noces, on ne peut pas en faire des tonnes. En plus de ça, les coûts de production vont aller en augmentant de plus en plus. Moi, je l'avais tourné en 16 mm gonflé en 35, c'était encore abordable. Déjà dans les années 80, le coût des laboratoires était tellement élevé que ce genre de film à petit budget aurait été très très dur à monter. Je pense que la raison principale, en plus de celle-là, c'est une question personnelle. C'est-à-dire, après avoir fait Vase de noces, j'ai fait, j'en parlais tout à l'heure, un long métrage sur les rites funéraires à travers différents pays du monde. Mais ce n'était pas comme une espèce de voyage morbide autour de la planète. C'était essayer de voir un peu dans différentes sociétés comment un individu ou un groupement humain perçoit la mort d'un proche ou quelqu'un perçoit sa propre mort. Et c'est un film qui a pris 4 ans, et c'est un film qui était finalement très dur psychologiquement. On l'a tourné à 3, avec 2 amis. Et après ces 4 ans de travail sur le deuil et sur la mort, moi-même je me suis rendu compte personnellement de la propre brièveté de ma vie, et que je ne devais pas gaspiller mon temps à faire des choses qui n'étaient pas essentielles ou qui n'étaient pas vraiment enrichissantes d'un point de vue personnel. Et donc j'ai vraiment tourné le dos à la fiction en me disant la fiction c'est quand même un métier, on est obligé de survivre financièrement en faisant des films, donc éventuellement faire des compromis. Tandis que dans la voie du documentaire, là, produisant tous mes films avec ma société de production, c'est moi qui choisissais le film, c'est moi qui choisissais là où j'allais aller. Et le choix d'un film était en fait la conséquence d'une rencontre. Donc je me suis dit, plutôt que de dire voilà, je vais faire un film pour gagner ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'était le contraire, je me disais mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie ? Je partais dans tel ou tel endroit du monde, je rencontrais telle ou telle personne. Et puis ça collait ou ça collait pas, et si ça collait, il y avait un film qui en sortait.
Et vos projets là pour la suite, ce serait quoi ?
Alors donc ça c'était disons des périodes où j'étais principalement réalisateur, et puis et j'étais accessoirement enseignant. Et alors il y a une quinzaine d'années, on m'a proposé de reprendre la direction d'une académie des beaux-arts dans laquelle j'enseignais. Alors c'est vrai que j'ai hésité, parce que je sais que être directeur d'une institution, enfin dans l'enseignement, ça prend énormément de temps. En plus de ça, c'était un grand défi de reprendre cette école des Beaux-Arts, parce qu'elle est située à Bruxelles, dans une commune à très très forte population immigrée, vivant dans une très grande précarité financière. Et cette académie était sur le point de fermer. Alors je me suis dit, bon ben, c'est une autre expérience dans ma vie, je vais reprendre cette académie, ce sera un nouveau défi. Et il se fait que ce travail, disons, de pédagogue, de faire renaître cette académie qui était mourante, m'a apporté beaucoup. Donc je veux dire, ça compense un peu l'espèce de nostalgie que j'ai de faire des films.
Est-ce que c'est justement par le fait que vous avez fait un travail ethnologique, donc le documentaire que vous avez fait, qu'on s'est dit c'est peut-être l'homme idéal justement au sein du tissu social ?
Disons que c'était la proposition avait été faite, c'est à moi à choisir. Hein. Donc je pense effectivement que les deux sont liés. Hein. Bon, c'est un défi à relever. Finalement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait.
Et quand les étudiants découvrent votre œuvre que vous avez fait en 74.
Alors quand j'étais enseignant, ça faisait partie de mon cours. Donc
ah oui, carrément.
J'étais obligé de le voir, on était obligé d'en discuter. Mais je pense que aussi bien le Vase de Noces que le film des morts, le long métrage documentaire, je pense que c'était intéressant pour eux que ça fasse partie de mon cursus, hein, parce que non seulement on analysait le film pour son contenu, mais je leur expliquais détail par détail comment telle séquence a été tournée, quel type de pellicule, quel type d'éclairage, tous les problèmes humains qui s'additionnent aux problèmes techniques. Bon, je pense que c'était assez intéressant et c'était des choses, bon, après, dans un débat ici, après une projection, ben, on peut en parler pendant une demi-heure, mais normalement, pour des futurs cinéastes, pour des futurs professionnels, ce sont des cours qui doivent beaucoup plus s'approfondir en revoyant même, par exemple, une séquence plusieurs fois pour dire pourquoi on a coupé à tel endroit du montage et fait tel raccord, des choses ainsi. Alors maintenant que je suis directeur, mais je ne peux pas imposer aux élèves, parce qu'en fait c'est principalement des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs. Mais alors quand même, une fois par an, je leur présente un de mes films que je discute.
D'accord.
En tout cas, Thierry Zeno, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Une interview passionnante, ça nous donne presque envie de voir cette histoire de truie là.
Ah oui, surtout que je ne vous ai pas raconté la fin, je laisse quand même une surprise.
D'accord.
En tout cas, je voulais remercier la Cinémathèque pour l'accueil. Et puis donc, j'ai passé quelques jours ici à Toulouse. Je trouve que vous habitez une ville magnifique avec plein de choses. C'est une ville qui bouge. Je suis très content.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci en tout cas. Thierry Zeno, donc, qui était dans le suppléant en week-end et qui a fait partie donc, de la programmation de ce festival Extrême Cinéma. Il y avait d'autres invités, je suppose, qui étaient présents tout au long de l'année.
Mais tu supposes bien.
De cette semaine, pardon, et qui ont été venus. Je pense que d'ailleurs, est-ce que dans les projections, encore tout à l'heure, il y a d'autres. Il y a encore possibilité de rencontrer des réalisateurs
Attends.
Il arrive.
Avachi dans le fauteuil, là, attends, il arrive.
Il en reste un.
Voilà, donc.
Faut pas le rater celui-là.
Ah bah c'est qui justement ?
Parce que je t'ai pas vu venir beaucoup.
Aïe. Écoute, ce soir je vais.
Non, il en reste un. Il y en a un pour la nuit, on en avait deux normalement pour la nuit. Donc on avait. On en avait deux. Il y avait Marie-Jeanne Hilsen, donc qui est scénariste et romancière et novelliste, qui malheureusement pourra pas être là. Voilà. Et par contre, Frédéric Grousset, qui lui est réalisateur, donc lui sera bien là. Voilà. Il est en route, je pense.
D'accord.
Alors, Eddy, toi, tu connais bien Fred Grousset.
Alors ça remonte à une dizaine d'années, hein. Ça remonte à l'association Faux Raccord sur Montpellier. Donc c'est vrai que quand j'ai vu la programmation et notamment Merde, ça m'a parlé, effectivement.
Oui.
Voilà. Et j'avais bossé avec eux à l'époque sur le fanzine Zibride. Donc je sais pas si ça parle aux plus anciens ici.
Oui.
Et avec le regard.
Ah oui, là c'est un regard ouf. Ouais. Dépitation.
Parce que je lis plus trop de fanzine en fait. Donc c'est pour ça que je me souviens de tous ces vieux fanzines que j'avais. C'était bien, hein ? C'était bien.
Ouais, c'était le bon temps.
On va faire une interruption musicale toujours sur la même compilation de mashup Halloween Booty qui était sortie l'an dernier, hein, je reconnais. Monster Dare de Cheeky Boy. It's there. Oh. Monster Dare, Checky Boy sur Radio Éphémère. C'est le supplément week-end numéro 329 et nous sommes en direct de la Cinémathèque de Toulouse.
Tu le dis au pif ?
Non.
329.
Ouais, déjà, tu te rends compte. Et nous avons donc ceux qui... à cause de qui on est là, à cause de qui on envahit, qui, à cause de qui c'est le foutoir aujourd'hui à la Cinémathèque où il y a des métalleux chevelus et
à
tout,
cause de
qui,
toi.
qui sont en train de faire de la répète. Et que cette nuit, ça va être le cirque complet. Donc, Franck Lubé et Frédéric Thibault, merci. Franchement, d'être venu à notre micro et surtout que vous avez dû vous réveiller alors que cette nuit, ça va être long.
Oui, ça va être très long. On a dit que ça commençait à 22h, je ne me rappelle plus.
Oui. Voilà.
Mais c'est bien de le redire aussi.
22h, 8h du mat.
Voilà.
D'accord.
Ça fait 10h à peu près de...
On peut espérer acheter des tickets jusqu'à quelle heure, grand max ?
Avant 22h, mais après ça dépend des gens. S'ils viennent vite, là, admettons, je ne sais pas, il y a un quart de touristes de 80 personnes qui arrivent. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Ah bah tiens, si on allait à la Cinémathèque, ça a l'air bien, il y a 10 heures de projection. Eh bien, ils achètent 80 tickets. Et puis après, il n'y en a plus. Donc les gens ne peuvent plus rentrer parce que c'est complet.
Ouais, mais il y a peut-être des gens qui peuvent se dire on vient après 4 heures de projection parce qu'il y aura des gens qui seront partis.
Non. Alors ça, c'est la petite précision, c'est-à-dire que les gens ne partent pas. Les gens sont enfermés, c'est-à-dire qu'on ferme les portes.
D'accord.
Et c'est fini. Et on est obligé de rester jusqu'au bout.
C'est vraiment une expérience et je l'ai vécu jusqu'au bout. Thomas, je ne crois pas que tu as eu l'honneur
de le faire. Non,
tu l'as jamais fait. Ça vaut vraiment le coup. Et je vais vous expliquer un petit peu comment survivre à la nuit de clôture d'Extrême Cinéma. Alors d'abord, bien évidemment. Vous pouvez, parce que quand même, ça se passe durant la nuit, mais quand même, c'est une grande soirée. Vous pouvez venir en tenue. Alors, je vous recommande quand même la robe de chambre, tout simplement parce que ce sera plus confortable. Sinon, ça va être compliqué et ça va être compliqué avec mon casque
donc,
de la mettre.
Je traduis donc, Xavier sort une robe de chambre grise
voilà.
qui ressemble à un gars.
Non, tu peux rester parce que ça va être un petit peu compliqué. Vous ne devez pas prendre de boisson. Attention à la Cinémathèque. Hein, on est dans des locaux qui sont superbes, qui sont institutionnels et qui sont d'abord extrêmement classe et confortables.
Il y a des pauses, donc vous pourrez vous abreuver quand même entre les films. Voilà.
Donc il est interdit de boire dans la superbe salle de projection. Qui plus est, des douaniers vous interdiront.
Il est interdit d'y pisser aussi, précise. Pour ceux qui se prendraient véritablement pour des bêtes.
Il y a des douaniers qui vous interdiront d'amener toute fiole liquide dans vos bagages. Bon, après le contrôle de tickets, évidemment. Il y aura des hôtesses et tout, etc.
Ah, il y a des hôtesses.
Oui.
Mais par contre, ça fait pas cher la nuit d'hôtel quand même.
Ouais. Mais vous au pouvez final. Néanmoins venir avec un drap ou une couverture. Les nuits sont frisquettes en ce moment. C'est pas le temps à laisser un SDF dormir sans sa tente Quechua. On ne sait jamais.
Bon. En général, quand même, dans la salle, il fait chaud. Je précise. Pour le coup, c'est pas la peine d'amener une couverture.
Ouais, c'est vrai que je l'ai amené deux fois.
Ça sent même la chaussette passer une certaine heure.
Ah, bien. Oui, encore on est poli.
Et encore. Alors, comme on ne peut pas amener de boisson, pour tenir le coup toute la nuit, moi je vous conseille durant toute l'après-midi de boire beaucoup de café en avance, 2 litres, très noir. Hein, c'est un peu comme vous allez en tof, 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 tof. Enfin bon, tout ça. Alors, vous pouvez venir, bien évidemment, avec une pipe.
Vous pouvez amener de la drogue pour les organisateurs.
On ne sait jamais.
Vous êtes fatigué et le café, ça fait plus effet. Ouais. Passer une semaine, là, il faut passer le stade supérieur pour nous. Mais nous sommes preneurs.
Vous avez un compte Twitter ou un truc où on peut passer
on est là, de toute façon. Donc, vous pourrez nous trouver. On est, on accepte. Il n'y a pas de souci.
On fait passer le message.
C'est pour ça que je me permets.
Okay. Donc, venez avec une pipe. On ne sait jamais, devant un docu sur la nudité, vous pourriez en avoir envie, mais attention, conformément à la loi E2090 à l'intérieur des locaux, on n'a pas le droit de l'allumer pour tirer un coup. De toute façon, c'est dangereux pour la santé vu l'acrobatibilité de la position, je dirais.
J'ai pas compris le rapport à la nudité et la pipe, en fait.
J'ai bien peur plutôt qu'il n'y ait plus personne qui l'écoute. Je m'inquiète pas pour ce soir, je m'inquiète plutôt pour la prochaine émission.
Mais non, c'est la métaphore, tu sais, sur le film La Bonne Pipe, tout ça.
D'accord.
Voilà. Bon, alors, on ne peut pas venir avec de la nourriture. D'un, il est strictement défendu de manger dans la salle. Deux, les animaux peuvent devenir très agressifs quand on agite devant eux de la nourriture. prenez un grizzly par exemple, vous savez que ces bestioles sont capables de démonter un Porsche Cayenne à la simple vue d'un pot de tartinet, de pâte à tartiner goût chocolat. Bon, ça a peut-être un effet de bord, je pense, avec la taxe sur l'huile de palme. Ben, imaginez que Franck Lubé est capable des mêmes performances à main nue. Il est capable de démonter un Porsche Cayenne à main nue, toujours à la vue d'un pot de pâte à tartiner chocolat. Et merde, qu'est-ce que j'ai en main là.
Ah ouais, ok, ouais, ouais.
Bon, c'est dangereux, je sais, mais promis, je le referai plus, celle-là. Et alors, vous pouvez venir
ah,
avec...
Ah, mais il a vraiment... C'est une vraie, en plus.
C'est une vraie, ouais.
Il y en a dedans ou pas, j'ai fait.
Oui, il y en a encore un peu.
Je vous conseille quand même de venir avec un coussin, car même si les fauteuils de la Cinémathèque sont très confortables, les lombaires peuvent souffrir quand on s'endort dans une mauvaise position. Si d'aventure vous sentez un peu là durant un film d'horreur italien Z des années 80, nous aussi ça nous arrive hein, au sein de l'émission. Néanmoins, il est strictement interdit de planquer dans votre coussin des boissons ou de la nourriture, surtout de la nourriture, car sinon Franck Lubé pourrait vous agresser durant votre sommeil. Transformant la projection.
Franck Lubé, il a rien à foutre quoi, que vous aviez des biscuits ou je sais pas quoi. Je m'en tape.
Transformant la projection du film d'horreur italien en version 3D impromptue en odorama au milieu de la salle, ça ferait des ordres. Alors par contre, je ne sais pas si on aura le droit de Google plusser, tweeter, facebooker durant les projections, vu les trucs complètement improbables.
Non mais juste, vous faites ce que vous voulez. Le seul truc, quoi, comme j'ai dit, vous pissez pas dans les coins. Il y a un écran, on respecte l'écran. Après, voilà, après, je m'en tape. Personnellement,
on va parler bien évidemment de la projection en elle-même, mais je me suis posé une question, c'est pourquoi vous n'avez pas pensé, je crois que le record Thomas c'est toujours 7 heures non-stop sans vomir. Le durée de visionnage
ah
du
oui,
Mia 4.
Tu mets le truc infect derrière nous là.
Ah ouais, ouais, ouais. Non mais attends, c'est le Mia 4 alors, à travers les âges.
C'est un truc qui parlera qu'aux geeks. Alors, il y en a dans la salle. Ah, il lève le doigt, Benoît. Vas-y.
Bon, si vous connaissez le Mia 4, c'est un chat gris qui d'ailleurs est mort là, il y a 15 jours. Enduit d'une pâte à tartiner qui galope dans le ciel avec un arc-en-ciel derrière. On a pensé à vous.
C'est le moment où je me barre moi.
Attends, mais c'est l'art vidéo. Il y a Thierry Zeno qui va peut-être. Attends, regarde.
C'est le Mia 4. À travers les âges du cinéma.
Is important to us. Please stay on the line.
Avouez que pendant la nuit, ça aurait été intenable jusqu'au bout, quoi, ce truc.
Qu'on vient de perdre nos organisateurs, on vient de perdre nos organisateurs.
C'est surtout pour les auditeurs que c'est compliqué là, parce qu'on voit pas les images.
Oh, on leur enverra le lien.
On leur enverra le lien.
Sur Donc tout ça pour dire, est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimeriez projeter qui ne sont pas dans les fonds de la Cinémathèque pendant la nuit, quand vous faites une nuit extrême cinéma?
Moi personnellement, la prochaine nuit, oui, j'aimerais bien projeter en fait Sleep. Voilà, un film, 6 heures, ce serait un film surprise. Peut-être qu'un jour ça arrivera, vous aurez un film surprise, vous viendrez, puis vous verrez un type qui dort.
Mais Sleep, c'est Andy Warhol.
Oui, exactement. Ça me ferait vraiment plaisir. Hein,
en fait, il attendait faire. Secrètement que tu dises oui, ça, on pourrait le projeter. Mais non, en fait. Hein.
Non, je suis désolé, mais non. Il y a des limites, quand même. Hein.
Des limites artistiques ou des limites du supportable
Oui, des limites artistiques, on va dire, quoi.
Moi, j'ai envie de... Pour rebondir là-dessus, j'ai envie de proposer un petit quiz, là.
Allons-y. Un quiz de bestioles hein.
Oui, alors attends, je retrouve la...
Ouais, vas-y.
Je retrouve l'affiche parce que je l'avais planqué dessous.
Moi, je cherche ma souris parce que sur un écran de 8 mètres carrés, c'est quand même un peu difficile. Alors, donc, je rappelle que quand même, hein, c'est un spécial zoophilie, hein, c'est pour ça qu'on va passer.
Non, zoofilm.
Zoofilm.
Zoofilm, c'est pas pareil. Alors.
Ah, mais attends, pourquoi tu m'avais dit que c'était interdit au moins de 18 ans ce soir? Je croyais que c'était spécial zoophilie. Non, mais non, bon, d'accord.
C'est du porno. Le porno, c'est interdit au moins de 18, quoi. Mmh. La zoophilie, c'est interdit tout court.
Alors, ce quiz, l'intitulé est le suivant: des films avec des titres où il y a des noms d'animaux dedans, mais pas que. Très bien. En tout cas, il y a des bêtes dans l'histoire, mais il y a peut-être des pièges,
mais pas que.
Très bien. Voilà.
Bon, attention.
Tu peux répéter là.
Alors,
j'ai rien compris.
Alors, je répète, c'est un quiz.
Non, pas la peine parce que je comprends.
Ah, bon, okay. Alors,
je rappelle qu'on est en direct et en public.
Ah oui, et si le public.
Et malheureusement, j'ai pas le sans fil, donc on va se démerder. S'il y en a qui ont la bonne réponse, ils lèvent la main. On lève la main, on promise. Hein.
Alors, les films, ça peut être de tous bords. Hein. D'accord. Alors, il faut trouver le titre du film. C'est Christophe Lambert avec des chiens.
Vas-y. Hercule et Sherlock.
Pas mal.
Pas mal. Ça.
Bien.
Bien, point de vue warm-up, bien.
Un gros toutou avec un nœud paps à la place de la bouteille de rhum.
Celle-ci est facile.
Allez, le papate. Premier.
Qui c'est qui a levé la papate?
Beethoven.
Bravo. Tu vois que t'es bon en sauver Willy.
J'adore les animaux aussi. C'est vrai. Hein.
Alors, question de rapidité cette fois-ci. C'est un Hitchcock.
Les oiseaux.
Ah, rapidité. Ah. Dedans, dans ce film, il y a des canards, des orchestres de gitans, des ressuscités et du Kusturica.
Ah, merde, comment ça s'appelle?
Ah non,
j'ai pas le nom.
Je sais. Chat noir, chat blanc.
Bravo.
J'aime pas ton quiz.
Et finalement, quand on quitte Beethoven et qu'on va dans le Kusturica, ça t'aime plus là. Hein, ouais, hein. Alors, l'inspecteur Harry avec un orang-outan. Il y en a deux.
Ça va cogner.
Et.
Ben, la suite.
Doudure et dingue. Allez, c'est bien, c'est une bonne réponse quand même. Franck, là, il va falloir...
Ah non, moi je joue pas, non.
Ah bon, d'accord, ok. Alors attention, c'est avec Sly et ses grosses lunettes de soleil. Promis, ce n'est pas la série Chips.
Cobra.
Bravo. Bon, là, il n'y a pas d'animaux dedans, mais c'est...
Je sens qu'au fond, quand même, dans l'équipe, dans l'équipe de background et l'invité qu'on a eu tout à l'heure...
Moi, je croyais que c'était des trucs avec des animaux.
Mais moi aussi, je
crois. Cobra, il n'y a pas...
Mais il a dit pas que...
J'ai dit, mais pas que, il y a des pièges.
Oh, mais c'est super compliqué.
Il y a Brigitte Nielsen, là,
mais pas que. Alors, attention, c'est peut-être pas un film, ça.
Ah, bah super.
Un blondinet qui met 3 plombes pour se faire pousser les griffes et un bec d'aigle.
Non, ça c'est une série télé.
Ah, Manimal.
Bravo. Manimal. Merci. Oui, Manimal. Très bien. Allez.
Va falloir faire une rétrospective de la 5. Hein. C'est bientôt les 30 ans.
Alors, c'est un film avec un ancien king de Manchester qui tatanait des spectateurs. Ah, là.
Je sais. J'ai pas le titre, mais je sais.
C'est Mookie.
Bravo. Mookie, le singe qui parle. Yeah, avec Eric Cantona et Jacques Villeray.
Oh,
ah oui, là. Hein, là.
Pourquoi Manchester?
Non, mais je vous explique un truc, c'est que le foot ça me parle, mais Fred par contre le foot ça lui parle pas du tout. Donc Cantona, Manchester. Non, en fait Cantona joue au foot à Manchester United, c'est pour ça.
Ah, oui, ouais.
Et il joue dans le film avec un singe, tu vois.
Allez, le dernier pour la route. Le bestiau est microscopique mais super dangereux et il y a que Dustin Hoffman qui l'attrape pas. Mais il doit quand même attraper un singe.
Congo.
H1N1.
Non, c'est pas Congo, c'est pas H1N1.
H1N5.
Attends, c'est pas le truc de Wolfgang Petersen, là.
Quelqu'un dans le public?
Alerte. Alerte, bravo.
Alerte.
Et voilà.
Merde.
mais alors, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans?
Alors quand même, comme on a
un singe et des virus, donc c'est des animaux.
Oh là là. Ouais.
Alors quand même, comme il y a quelqu'un du public qui a participé, voilà.
On va lui faire gagner quelque chose.
On va te faire gagner le numéro psychopathe de ce mois-ci, ce numéro 247. Nos 3 millions de chômeurs, 3 millions de feignasses. Merde, la gauche a battu mon record. Voilà. Il est en kiosque actuellement dans toutes les bonnes bibliothèques sans pub, 2,90€.
Ça c'est pas mal. S'il y avait eu plus de public qui participait, tu avais d'autres lots aussi ou pas?
Non.
Alors on va revenir.
Bon, oui. Est-ce que moi je peux poser une question pour recentrer le débat?
Tu peux toujours essayer pour voir.
Un film zoophile, grand public. Est-ce que quelqu'un a un titre à me proposer là, qui est sorti dernièrement?
Marley et moi.
Non. Zoophile avec grand public.
Il faut qu'il y ait une zaine de zoophilie suggérée ou hors champ, mais il faut qu'il y ait.
Pourquoi il y a une vraie réponse à ça ou pas?
Ah, il y a des vraies réponses, il y en a pas qu'un.
Dans Ted.
Voilà.
Ah oui.
Tintin.
Une zoophilie dans Tintin?
Non. On va encore avoir des emmerdes avec Nick Rodwell, s'il vous plaît.
Non, je sais pas. Vas-y. Peut-être que Franck est professeur, non? C'est quoi les réponses alors?
Hellboy.
Je crois que le record de moments gênants à l'antenne, où pourtant j'étais bien rentré dans le top 5 quand même depuis un bail tout à l'heure.
C'est un diable, c'est pas une bête.
Tu dis que c'est un diable.
Oui.
Et son pote à Hellboy.
Eh bien, Abbé Sapiens,
il fricote pas.
Il y a un petit flirt, c'est tout.
Il y a un petit flirt, mais moi je te dis qu'Hellboy, on peut le considérer comme un mammifère également, hein. Qui vient d'une autre dimension. Ouais, moi, je peux dire que c'est un animal.
Tu pousses le bouchon. Hein.
Tu vas chercher des trucs
dans le fantastique, un truc réaliste.
Vous vous rendez compte qu'on est à
c'est
peine
une
dans
question
le niveau
d'interprétation.
On est à peine dans le niveau grosse tête RTL là.
Oh ouais, je suis désolé. Bon, coupe-moi le micro.
Bon, sinon, tant qu'on tient Franck et Fred, un petit mot sur le déroulement de ce festival. Comment ça s'est passé? Des anecdotes à nous raconter, les temps forts. Voilà, si vous pouvez faire un bilan déjà.
Ils étaient où les gens?
D'accord, vous avez donc une affluence en petite baisse cette année. Peut-être zoophile, peut-être pas. Non ?
Non, parce qu'on a des. On a des invités qui acceptent de venir, qui. Voilà, on présente des choses un peu rares. Mmh. Non, personnellement, ils sont où les gens, quoi ? Tu vois, quand après on me dit ah ouais, c'est super, les films qu'on voit jamais. Ben ouais, t'as des films qu'on voit, ouais, qui sont très rares. Il y a des gens qui les ont fait, donc il y a Thierry qui était présent. Il y avait Lucille hier soir, tu vois, il y a 50 personnes dans la salle. Je me dis à quoi bon, quoi, tu vois, ils sont où, quoi. Voilà, si j'ai un truc à dire, c'est ça.
Oula. Ça se refroidit tout d'un coup. Non, on essaye de faire passer, mais c'est vrai qu'on est super déçus cette année parce que ça nous prend du temps. Ça paraît pas, mais ça prend du temps. Hein. On a toujours l'air de rigoler et tout ça, mais ça prend vraiment du temps de monter les procs comme ça. C'est pas évident, il faut trouver les films. Ça devient vraiment très rare. Et on a dans l'idée, en fait, et c'est la proposition d'Extrême Cinéma, c'est que pour nous, ça nous semble pas antinomique de pouvoir aimer donc Vase de Noces de Thierry Zeno et Les Rats de Manhattan de Bruno Mattei.
C'est vrai.
Voilà. Donc, et pourtant, c'est aux antipodes. Là, on se retrouve finalement avec, moi, ce que j'appelle tout simplement un manque de curiosité du public. C'est-à-dire que le public n'est pas curieux. Il est curieux quand on lui dit d'être curieux, notamment quand il suit les préceptes de cinéma d'art et d'essai, des préceptes lénifiants où on dit il faut aller voir tel film, sur le chômage, parce que le chômage c'est pas bien, là on s'y précipite, ou alors après on va tirer des thèses intello sur le dernier James Bond, voilà, pour éviter d'avoir l'air très con devant les copains. Voilà, donc c'est ce qui me vraiment ça me mine actuellement ce manque de curiosité des gens.
C'est un conformisme dans la pensée soi-disant alternative.
C'est pas du conformisme, c'est de la bêtise. C'est pas du conformisme, c'est de la bêtise. C'est pour moi c'est tout. C'est Ça va devenir, ça va devenir, il faut pas se leurrer, ça va devenir de plus en plus rare, les choses comme Extreme Cinéma.
Non, mais c'est vrai.
Donc la proposition qu'on fait, peut-être qu'on le fait mal, peut-être qu'on le fait maladroitement, ou peut-être qu'on fait pas les choses ultra bien, mais ça aussi je pense que c'est voulu, parce que moi j'aime bien les choses qui rappent et qui ont un peu de défauts, mais il faut se dire que quand ça aura disparu, après il faudra pas venir se plaindre de dire ah ouais, mais non, là, 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 mais non, on n'arrive plus à voir ce type de film et tout. Non, je suis désolé, il fallait être là.
Mais d'un autre côté, la Cinémathèque de Toulouse, c'est un lieu entre guillemets institutionnel, mais il y a pas mal de festivals qui sont sur des thèmes complètement à part, voire réellement festif, pur et dur. On a couvert le festival du film Grolandais à Toulouse en septembre.
Alors là, il faut pas m'en parler du festival Groland, parce que là, voilà. Non. Là, je supporte pas cette idée de Groland. Voilà, je supporte pas cette idée de cadre supérieur de Canal+ qui viennent, voilà, en gros, faire la fête en province, comme ils appellent. Voilà, même s'ils se défendent d'être parisiens ou voilà. Donc faut puis j'aime pas les marques au cul du poulet, quoi.
Ouais, mais
Groland,
ouais,
c'est une marque au cul du poulet. Point.
D'un autre côté, là où je voulais en venir, c'est que la Cinémathèque, justement, c'est il y a une programmation qui est complètement alternative, complètement différente et qui est décoincée littéralement sur la programmation. Il y a cette fenêtre, il y avait des choses qui était à une époque qui se déroulait tous les samedis, c'était Faubourg du cinéma. Quoi. Mmh. C'était une fois par mois, je sais plus.
Une fois par semaine.
Une fois par semaine, ouais. Je veux dire, justement, c'est qu'il y a quand même y a une institution de ce côté-là qui mérite d'être connue sur la diffusion de ce genre d'événements. Donc, qu'est-ce que tu penses, quel est le problème? Les jeunes vont trop pirater sur YouTube
Le problème, on n'en sait rien. Le problème, on s'en fout. C'est juste, on constate, quoi. Tu vois, nous, on fait notre job. Mais je veux dire, voilà, quand tu vois, tu fais ton truc, tu vas vendre tes marrons. Si personne n'en veut de tes marrons, quoi, ben t'arrêtes de vendre des marrons à un moment donné. Tu vois, c'est ça le truc, quoi. Après, le pourquoi du comment ils en veulent pas, j'en sais rien, quoi. J'en sais rien, c'est tout, quoi.
Est-ce qu'il y a malgré tout eu une curiosité, enfin c'est pas une curiosité, mais un plaisir des gens de redécouvrir des classiques que vous avez programmés sur grand écran? Je pense à King Kong, à La Mouche,
Pas encore passé, c'est tout à l'heure.
Il y a la Féline aussi, Thomas. Tout à l'heure aussi.
Non mais bien sûr, les spectateurs, il y a des spectateurs qui nous suivent, il y a aussi des spectateurs qui justement là sont dans la salle et qui sont pas de Toulouse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui font 400 ou 500 ou 600 bornes tu vois, pour venir à Extreme Cinéma voir des films qui passent la semaine à Toulouse, tu vois, qui se débrouillent. Il n'y a pas de Toulousains, quoi. Je veux dire, quand on regarde la salle là, il y a quasiment plus de, enfin c'est kiff Toulousains et les gens qui viennent qui viennent de très loin quand même, quoi, tu vois. Donc bien sûr ça intéresse. Alors peut-être qu'effectivement c'est une niche, après ça peut ne pas intéresser tout le monde, mais bon, quand même, on a tous, tu vois, on n'est pas à l'Aiguevin ou je sais pas, tu vois, faut pas. Voilà, c'est ça qui est un peu. Un peu déroutant, quand même, je trouve, moi, personnellement. Après, ceux qui sont là, bien sûr, ils sont. Moi, j'ai eu que de bons retours, quoi, bien sûr. Quoi,
Est-ce que ça pourrait vous dégoûter de la radicalité qui fait votre marque de fabrique, peut-être?
Ah non, la radicalité, ça sera toujours, quoi. La seule radicalité qui mettra un bout, c'est que, c'est comme je t'ai dit, quoi, c'est qu'en ces cas, vous allez arriver pour une nuit, et puis il y aura slip, et puis salut, quoi. Tu vois, là, je serai radical, quoi.
Alors, sinon, là, il reste encore des films à projeter, hormis la cérémonie de clôture. Est-ce que vous pouvez nous parler des films qu'il y aura projetés aujourd'hui jusqu'à ce soir? Pour donner envie aux spectateurs qui traînent là, qui fait mauvais dehors, qui fait un peu froid, ils vont se mettre dans la salle à la place. Alors voilà, donc
du coup, après tout ce que je viens de dire, quoi, j'ai l'impression que là je vais taper la manche, quoi, tu vois, genre. Alors, allez les gars, venez quand même, soyez sympas.
Assume, venez.
C'est trop bien.
Non, mais j'assume.
Ça, tu vois, c'est à cause du pot de pâte à tartiner qui est resté fermé, voilà, tu vois. Ouais. Mais on n'a pas le droit de manger.
Non, je. T'en as parlé. De toute façon, là, justement, on a des gros classiques. On finit justement avec les gros classiques. Ils sont King Kong, je crois, qui est à 15h. On a La Féline à 17h. Et La Mouche à 19h, peut-être que c'est à 19h15 en petite salle, La Mouche. Voilà, c'est des gros classiques. C'est l'occasion de les voir sur grand écran, de les revoir, parce que j'imagine, si vous n'avez pas vu, ce serait bien de les découvrir. Je précise que le King Kong, c'est pas le gros pâté de Jackson, quoi, hein. C'est celui 33 de Shostak et Cooper, donc l'original, voilà.
Après, voilà, après, venez, je sais pas vous oui, dire. Qu'est-ce que je vous dire? Je vais vous dire quoi? Que c'est des chefs-d'œuvre? Oui, bien sûr, mais bon, voilà, ça a pas.
Sachant qu'il y a aussi Bad Taste ce soir aussi, dans la cérémonie de clôture, entre autres.
Oui, Bad Taste, c'est dans la nuit, mais bon, voilà, la nuit, voilà. La nuit, je vous rappelle, ça commence à 22h. Après 22h, il n'y a plus de billets, donc vous pouvez acheter des billets, mais avant 22h, vous pouvez aussi, voilà,
avant d'y aller, avant de se faire un resto dans un kebab, se faire un truc comme ça, oui.
Carrément. Ouais. Regarde, t'as Life Force. Je veux dire, Life Force, c'est l'occasion de voir un film comme ça en salle, dans les bonnes conditions, c'est génial. Quoi.
Oui, parce que c'est vrai que les VHS qui étaient en VF, au secours, quoi. Voilà.
Ceci, ce sera une VF. Mais en 35 mm, monsieur, attention, hein.
Et bon, ça, je parle pour la jante masculine, hein, et les seins de Mathilde Amé. Voilà.
Ah, ça va, ouais, voilà.
Tu vois, s'il y a un truc à dire pour faire venir venez voir
Mathilde Amé à poil, voilà.
Peut-être. En full frontal pendant très longtemps. Voilà.
Voilà, il y a une bonne pipe ce soir, il y a la nudité,
c'est un bon programme, quoi.
C'est très bien.
C'est un super programme.
Thomas,
oui, quoi,
on avait oublié de mettre le macaron moins 16.
Ben quoi, la bonne. C'est pas
début,
des gros mots
oui, non, bon, d'accord, ok.
Oui, c'est avant qu'elle se fasse refaire.
Oui, et c'est bien de le préciser.
c'est très important.
Parce que oui, le spectateur toussaint lambda d'aujourd'hui, le jeune, donc Mathilde Amé, il voit pas ça comme ça, quoi. Donc faut bien
Mathilde
préciser.
Amé, est-ce qu'il la voit déjà?
Oh, il doit l'avoir avec sa maman, enfin son papa.
Oui, son papa a dû lui en parler à un moment donné. Ouais,
il a dû lui en parler.
Quand tu lui expliquais quelques petites choses, il a dit : Toi, Mathilde Amé.
Est-ce que c'est le moyen, on va peut-être faire une petite coupure là pour laisser inspirer.
Oui, puisque là quand même on attaquait les débats de fond et c'était un petit peu difficile. Voilà quoi. Après le nid à 4, qu'est-ce que je peux
faire? On va donner de la pâte à tartiner aux invités pour les consoler un petit peu là.
Ceci dit, tiens, le temps que je fasse, que je trouve un disque, je peux peut-être faire l'agenda, puisque ce jeudi, à la librairie Gilbert-Joseph, c'est à côté, hein, Timothée Montaigne dédicacera Julius, qui est après quel du Troisième Testament, c'est aux éditions Glénat. Samedi 24, Fab Caro et Fabrice R, qui sont les dessinateurs de Z, comme Don Diego, qui est sorti chez Dargo, donc sera là aussi à la librairie Gilbert-Joseph. Le jeudi encore, pardon, excusez-moi, à BD Ciné ex album. Enfin, pour nous, ça a toujours été BD Ciné, mais on est des vieux. Nicolas Sûr dédicacera Royal Aubrac, dont le deuxième tome clôture, en fait, cette histoire complète, scénarisée par Christophe Beck.
Toujours dans le même quartier de Toulouse, si
voilà,
vous connaissez.
Voilà, c'est chez Vendouès, 24 et 25 novembre. On sera en direct au Capitole du Libre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Et à mon avis, on parlera de culture libre, aussi de logiciels libres, surtout. Et le 1er et 2 décembre, on sera au Toulouse Game Show. Là aussi. En direct, en extérieur, en public, ça va être un petit peu la folie furieuse.
Allez, cale ton morceau. T'as pas collé le morceau encore avec
tout
ce que t'as dit.
Non, j'y arrive pas, tu vois, en même temps, c'est un petit peu hardcore, quoi. Et puis flûte. J'ai bêtement monté le fond sonore, voilà. Je vous précise donc que vous êtes sur Radio FMR sur le Supplément Week-end en direct à Cinémathèque de Toulouse et on a profité d'avoir un grand écran en fait pour projeter le fond sonore qui est en fait un mash-up de Smash TV, Skymax, qui en fait est une ode à la VHS. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, t'as un peu de tout. T'as du Kurt Russell, t'as Jean-Claude Van Damme qui fait un clin d'œil absolument magnifique, truc comme ça. Et une prog musicale absolument d'enfer. On vous donnera le lien parce que franchement, c'est une heure absolument hypnotique qu'on fait traîner en longueur depuis tout à l'heure.
Moi, il y a un truc que je voudrais savoir quand même, parce qu'on est profitons que nous soyons en public. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont vu des films projetés au cours de ce festival Extrême Cinéma? Est-ce qu'ils veulent nous en dire deux mots?
Je cède ma place, même.
qui a vu des films ici?
Il y a pas. Ouais. Allez. Ah bah, il y a quand même des courageux spectateurs. T'as
des courageux spectateurs, je dirais simplement des spectateurs, des vrais.
C'est le coup de... ça va être le full frontal, ça va être...
Il y a une bonne ambiance, c'est bien.
Non, c'est normal. Ils peuvent se lâcher. Ici, on a une audience fabuleuse.
Bonjour, ton prénom?
Anthony.
Anthony, donc toi, tu as vu combien de films, lesquels?
J'ai essayé de voir un maximum de films, j'ai pas compté, mais je suis là spécialement pour le festival. Je dois être la personne dont parlait Franck tout à l'heure, parce que j'ai fait 460 km pour venir.
D'accord.
Juste pour le festival. Voilà, puis j'ai essayé de voir un maximum de choses. Merci.
Non, mais c'est bon.
Bravo. Sérieusement. Qu'est-ce qui te fait te venir? C'est la programmation.
Qu'est-ce qui te fait te venir?
Qu'est-ce qui te fait te venir?
Particulièrement, c'est parce que c'est une programmation que tu trouves.
C'est principalement trois choses, évidemment, la programmation, parce que. Moi, je la trouve extraordinaire. Et c'est vraiment le cinéma que j'aime, parce que justement. Comment dire, il n'y a pas de... C'est à la fois une programmation vachement festive, parce qu'il y a, il y a du bis, tout ça, il y a de la série B, il y a des choses sympas, mais il y a aussi justement du cinéma aussi autre, comme Vase de Noces, des films un peu plus, entre guillemets, exigeants, mais de vraies découvertes aussi. C'est aussi l'ambiance, parce que c'est un festival qui est à taille humaine, j'ai envie de dire, quoi, qui est hyper, hyper chaleureux, et on est toujours super bien accueillis par.
Et puis en plus, Portimo, il donne l'adresse où, après les films, où c'est qu'ils vont boire. Donc,
voilà, en plus, on peut même aller boire.
C'est dans le programme.
On peut même aller boire des pots avec eux. Et puis c'est Toulouse aussi, parce que j'adore Toulouse, voilà, donc je suis content de venir. Mais
Tu es juste passionné de cinéma un peu déviant, tu es dans la profession du cinéma, non?
Entre guillemets, oui, enfin moi je suis dans l'exploitation, enfin je travaille pour un réseau de salles de cinéma, mais je suis passionné aussi et je développe des projets aussi à côté personnel, mais à la base je suis surtout cinéphile et j'ai envie de découvrir justement aussi tous les films qui sont programmés là en 35. Dans de bonnes conditions, dans une cinémathèque, parce que là où je suis, j'ai pas la chance d'avoir de cinémathèque, donc j'en profite justement et j'essaye de voir un maximum de choses.
Ton coup de cœur parmi tous ces films, d'une découverte.
C'est un peu compliqué de choisir, mais je crois que le film qui ressort le plus pour moi, même si j'en profite qu'il y a Thierry Zeno dans la salle, mais Vase de Noces est quand même marquant, même si c'est vraiment une expérience de cinéma, mais moi le film qui est ressorti le plus c'est peut-être Link, qui fait la couverture du programme du festival, j'ai trouvé que c'était un film hyper
on peut le raconter, hyper
intéressant, parce que Link c'est un film des années 80, de 86 je crois, avec une histoire de chimpanzé dressé comme un humain, et ça peut ressembler, ça peut être résumé assez grossièrement comme un slasher un peu années 80 avec un animal tueur, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Moi j'ai trouvé ça vachement réussi en fait, et ça fait écho à plein d'autres choses qui sont passées dans le festival. Hier on a vu un super documentaire aussi, Coco le Gorille qui parle, qui est absolument fabuleux. Et voilà, c'est un peu dur, j'ai du mal à choisir des films parce qu'il y en a plein qui m'ont marqué hier. Hier, il y a eu quand même une super soirée avec le moyen métrage La Bouche de Jean-Pierre, qui est une grosse claque que je n'avais jamais vue. On en avait parlé, et qui est un film assez prenant pour le coup. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec le thème du festival, mais c'est une super découverte aussi. Donc,
Et donc là, tu comptes faire la nuit de clôture ce soir. Voilà. Donc j'imagine que tu es un habitué des nuits de clôture de ce festival-là.
Je viens que depuis un an, donc je l'ai déjà vécu l'année dernière.
Donc pour donner envie aux gens de venir pour la nuit ce soir, est-ce que tu peux raconter, vu de l'intérieur, vu du point de vue du spectateur justement, cette expérience-là?
C'est juste une nuit où il y a une super ambiance, et c'est vrai qu'il y a du monde. En général, c'est
c'est plutôt comment dire c'est une ambiance vachement festive en fait, parce que tout le monde rigole. Alors c'est vrai que on voit des films comme Les Rats de Manhattan, etc., qui sont des films qui peuvent prêter à rire en tout cas.
Oui, surtout les rats sur le tapis de caoutchouc qu'on tire.
C'est une scène magnifique. C'est vrai qu'il y a des choses. Et c'est vrai que du coup, bon, dans les nuits, il y a quand même une ambiance où tout le monde parle un petit peu, n'hésite pas à faire des commentaires à vote, qui font rire les autres, etc. Et puis il y a aussi des compilations de bandes annonces qui sont exceptionnelles en général. Ça met le feu aussi.
C'est des bandes annonces de ce genre de film-là.
Souvent, en tout cas l'année dernière, ce qu'on a eu. Puis même des petits. Bon, ce qui est très fun, c'est qu'il y a des petites surprises, des espèces de petites des fois dénichés comme ça dans les tiroirs de la cinémathèque, avec des publicités ou des spots pour des campagnes institutionnelles ou quoi que ce soit qui datent des années 70, enfin des choses comme ça, des plein de petites surprises en fait. Et je pense que cette année ça va être pareil, donc j'ai hâte de voir ça.
Il y a des spots pour la caisse d'allocation familiale avec des musiques exceptionnelles.
Ouais, il y a un peu dans le genre là quoi. Là,
d'accord.
Ouais.
Et donc tu vas revenir l'année prochaine.
Ah bah certainement, oui.
Est-ce que tu es arrivé à convaincre quelqu'un de te suivre, à faire tout ce trajet pour te suivre, pour voir des trucs aussi frappadingues?
Bah c'est compliqué parce qu'en fait, je rencontre plus de gens ici qui aiment le même cinéma que moi que chez moi en fait. Donc je viens seul et malheureusement justement, c'est pour ça que je suis content de venir ici, c'est pour pouvoir partager justement cette passion avec d'autres gens ici. Parce que j'ai pas forcément d'autres gens de mon côté. Moi je viens du Var, je viens de Toulon. Et malheureusement, c'est une région qui est assez sinistrée d'un point de vue culturel. Enfin, en tout cas,
on va pas dire pourquoi. Hein.
C'est hyper. Bon, c'est une.
Par contre,
c'est
une super teuf cet après-midi avec la phobie partie. Ça.
Ouais, non, voilà. Bon,
ça va être quelque chose d'assez.
Bref.
C'est mignon.
C'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas la chance d'avoir ni de cinémathèque ni de festival dans ce genre-là. Il y a des choses à Toulon, mais pas dans ce goût-là. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir venir. Malheureusement, non, j'ai personne qui m'accompagne, mais on sait jamais. Ou peut-être qu'un jour, quelqu'un aura l'idée de le faire là-bas aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis super content de pouvoir venir à Toulouse. Et,
bah écoute,
c'est une bonne note.
Non, mais c'est fou parce que ça fait deux personnes qui tressent des fleurs sur ce festival et à Toulouse en particulier.
Alors que c'est pas évident quoi. C'est pas évident.
Je comprends pas justement. J'ai du mal à comprendre le manque de spectateurs parce que c'est. Enfin, pour moi justement, Toulouse c'est une énorme ville et il y a beaucoup de choses.
Exact.
Et c'est culturellement pour moi, par rapport toujours à là où je viens. C'est une ville assez marquante culturellement et il faut profiter quoi, parce qu'avoir une cinémathèque c'est juste donc c'est non faut profiter de ce genre de festival effectivement, et puis justement il y a ce côté humain quoi, c'est-à-dire on partage, on rencontre des gens, on discute autour d'un verre de films, etc. C'est vraiment c'est une super ambiance. C'est ça qui me marque des fois plus que les films, c'est l'ambiance en fait, vachement chaleureuse.
Est-ce que tu as regardé un petit peu les précédentes éditions, les programmes que tu as loupés? Et est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, mince, j'ai loupé cette soirée-là ou cette projection-là?
Pas spécialement, non. Au contraire, moi j'essaye surtout de me dire au contraire, il ne faut pas que je loupe celle-là. C'est ce que j'ai essayé de faire à peu près aussi cette année sur des coups de cœur et me dire, il ne faut pas que je loupe tel ou tel événement.
Puis j'aimerais ajouter aussi, quand tu me parles de ça, moi ça me parle également, hein, c'est pour ça que je viens faire ce genre de soirée. Puis il y a le côté aussi rock'n'roll quoi. Il y a le côté rock'n'roll de la
programmation. Ouais, complètement.
De cette nuit-là. Parce que là, vraiment, quand on voit ce qu'il y a ce soir, ça part, mais dans tous les sens, quoi. Et je trouve ça génial.
Complètement. Bad Taste et bon, qui sont des films sympas. Ouais, c'est vraiment des films. L'année dernière, il y a eu Evil Dead, il y avait des classiques, hein, mais qui font toujours plaisir à partager. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est le principe. Toujours pareil, de le voir sur grand écran, quoi. De pas le voir tout seul dans son salon en DVD, c'est toujours un peu tristouné, quoi.
Ils avaient même fait une année. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que
t'as Franck qui t'écoute là, donc on pourra demander confirmation.
Il y avait Franck et Nen Lauter, hein, il me semble, hein, pour oui. Pas de biologie.
C'est il y a deux ans.
Alors ça, par exemple, c'est quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc incroyable. Je veux dire, Franck et Nen Lauter, c'est pas le réalisateur qui se déplace le plus souvent du monde.
On l'a même reçu deux fois en fait pendant Extrême.
Ouais. Ouais, et c'est vrai que ça, l'initiative de présenter Bad Biologie, c'était juste, c'est juste incroyable, c'est la seule fois en France.
Et puis c'était, oui, c'était formidable parce que Franck était resté, du coup il était resté enfin jusqu'au bout en fait du festival, et il nous avait même fait l'amitié de nous présenter Mister No Legs pendant la nuit, voilà, qui est un film hallucinant, et voilà que donc ceux qui étaient présents ont eu la chance en fait d'avoir ce film sorti de nulle part, présenté par Franck Hennel, l'auteur, voilà, ouais. qui était dans les murs, et en plus voilà qui était présent et tout à fait abordable, quoi. C'est-à-dire que voilà, il nous avait fait vraiment l'amitié d'être. C'est-à-dire on traînait dans le hall, n'importe qui pouvait venir le rencontrer, lui poser des questions, discuter avec lui. Voilà, c'est ça aussi quand même l'idée, l'esprit extrême.
Voilà,
Les invités sont abordables. C'est un cinéma plus accessible sans que des gens se prennent pour les stars, quoi.
Je pense, parce que de toute façon, quoi, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. C'est que d'abord, on aime le cinéma, et puis nos invités sont aussi des gens qui aiment le cinéma, et donc qui aiment en discuter. C'est-à-dire qu'on va pas, donc, tu vois, on n'a pas de grandes méga stars qui vont jouer les divas. C'est pas notre créneau, en fait, quoi. Voilà, tu vois, ça nous intéresse pas plus que ça, quoi.
Et est-ce qu'il y a des réalisateurs, du coup, qui commencent à connaître la notoriété de ce festival et qui disent « Moi, j'aimerais venir et j'aimerais présenter ça ». Est-ce que maintenant, la nourriture, elle vient à vous ?
Non, en fait, la nourriture vient à nous, si tu veux, en quelque sorte, mais sauf que je pense que c'est une incompréhension. En fait, souvent, ce sont des jeunes réalisateurs qui nous proposent des films, mais pensant davantage que c'est un festival, c'est un vrai festival, parce qu'en fait Extreme Cinéma est un faux festival, il n'y a pas de compète officielle, donc on montre très peu en fait de nouveautés. On est lié à notre travail à la Cinémathèque, donc on travaille énormément en fait sur le rétrospectif et sur le mélange de toutes les époques, tous les genres. Voilà, on est vraiment imbibé en fait de la Cinémathèque, et donc on fait pas de compète. Voilà, nous ça nous intéresse pas. Il y a beaucoup de festivals en fait qui font de la compète, et c'est très bien. Tu vois, on peut se déplacer, essayer d'en voir pour découvrir des choses. Mais il y en a qui font ça très bien et qui font ça mieux que nous. Nous, on se situe sur un autre registre, un autre rapport au cinéma.
En plus, ça, on l'a compris que c'était pas l'esprit non plus du festival, et puis le fait qu'il y ait une compétition dans ce que vous faites, ça nuirait aussi à l'esprit de toute façon.
Nous carrément on le ferait pas, quoi. Voilà, nous c'est pas dans notre idée, quoi. Déjà, il y a pas de compète pour nous, puisqu'on aime mélanger tous les genres, toutes les époques, et voilà, tu vois, et pouvoir passer d'un film à l'autre voilà, sans aucun souci. Donc non, il n'y a pas de compète. L'idée même d'une compète, en fait, nous est impossible, à vrai dire. Donc voilà. Donc, mais par contre, on reçoit effectivement souvent des demandes de jeunes gens qui ont fait des films et qui voudraient présenter les films. Bon, mais ça peut arriver aussi, du coup, qu'on ait des coups de cœur et qu'on passe des films qu'on passe des films quand même dans la, par exemple dans la nuit de clôture. On l'avait fait avec presque des hommes l'année dernière. On l'a fait avec Calibre 9, tu vois, on avait passé j'oublie son titre là, Tassi, pardon, voilà. Excuse-moi, JC Tassi, si voilà, je retrouve une note.
Enfin, moi j'aurais une question. Bon, là on parle de cette année, là on y est, on la vit. Bon, ce soir, ça. Est-ce que tu as des idées là, déjà là, pour l'année prochaine?
On a quelques idées, parce qu'on a toujours quelques idées d'avance, on va dire, mais rien de concret.
Spoiler,
c'est vrai qu'on en a parlé samedi dernier, on s'est dit pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, mais ça veut pas dire qu'on le fera l'an prochain, peut-être qu'on le fera dans 10 ans.
Voilà, bam.
Peut-être qu'on fera plus extrême non plus. Non, on a des idées, mais rien de concret encore. Parce que c'est toujours comme ça, on discute entre nous, mais comme on discute aussi avec les spectateurs, Donc voilà, il y a des idées qui se, voilà, il y a des idées qui peuvent, voilà, qui, on se nourrit aussi en fait de, des autres, et à partir de là, après nous, on se décide, on se dit ah ouais tiens, allez pourquoi pas sur un coup de cœur, mais ça peut aller très vite, hein, parce que ça peut être, tu veux dire, ça va sur un apéro, quoi, parce qu'en général, Extrême, quand même, on le prépare, c'est l'apéro, quoi, on, voilà, on boit du vin rouge et on discute et on met des titres après, et puis on se dit ouais tiens, ça, ça peut être pas mal, ouais ça, ouais peut-être, bon voilà, et ça, ça,
c'est un peu cet esprit ça, fait, qui me plaît, c'est de se dire voilà, on est entre amis, on va se louer des films comme on faisait à l'époque, on prend ça, 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 on pioche dans les rues,
ouais, ouais,
un thème, et voilà.
Oui, c'est un peu ça, ouais, et après, voilà, et après on fait ça un peu sur le coin de la table, quoi.
Xavier, ça et va être l'heure de boucler.
Ouais, il est 13h30 du sport. Il est en train de foncer au studio pour
son émission musicale. Ça, c'est du sport qui est juste après, à partir de 13h30. Il va y avoir peut-être une coupure là, un peu longue de musique. On va remercier les intervenants qui sont venus. Donc, Thierry Zeno, merci, qui est encore dans la salle. Professeur Thibault, qui est parti. Franck, merci infiniment.
Merci.
Et puis, bon courage pour la suite. On espère qu'il y aura une suite et qui aura beaucoup d'éditions futures.
C'est pour ça que les Toulousains, ils doivent se bouger un petit peu quand même.
Hein. C'est
voilà,
le message,
juste le petit message, voilà, bon.
Du coup, j'ai trop l'impression d'avoir tapé la manche, quoi, là, tu vois.
Mais non.
Mais tu défends ta passion, l'art que tu conserves.
Et comme tu dis, quand ça y sera plus, on dira ah oh, mince, avant, il y avait des trucs. Voilà.
Merci ouais, aussi à notre invité de Toulon, puisqu'entre vie de rugby, on se reconnaît, c'est on a vrai. Une sympathie pour. Voilà. Sushi, merci d'avoir été
c'est
parmi nous.
Et de remercier le groupe qui est venu au tout début.
Oui. Également.
Moi,
oui.
Je veux remercier surtout toute l'équipe de la Cinémathèque qui a fait un boulot formidable pour nous recevoir, en plus du boulot du festival lui-même. Nous recevoir quand même, c'est beaucoup de bordel. Et Kinou qui a géré tout l'équipement technique.
T'as
pour
vu,
la radio.
Il commence l'émission par bordel, il finit par bordel. Ça, c'est une bonne parenthèse, tu vois.
Ouais. Merci de me le rappeler, on va me le dire tiens très souvent. La semaine prochaine, on est au Capitole du Libre, c'est à l'ENSET, le week-end du samedi et du dimanche, donc c'est autour du logiciel libre et de la culture libre. On va parler beaucoup de montage vidéo et d'artistes 3D, donc ça devrait être intéressant. Je crois que je serai avec Olivier Hague, mais surtout avec Infested Grunt. Est-ce que ça te dirait de passer? Ah, pourquoi pas, il me dit, ok, pourquoi pas. Et dans 15 jours, ça va être la grande folie furieuse.
Le Toulouse Game Show au Parc des Expos de Toulouse, 1er et 2 décembre. Donc ça sera cosplayé à fond et on va faire ramener plein d'images, des photos et des interviews. Ouais.
Ma foi, est-ce qu'on ose le résumer?
Non. Eddy, merci d'être encore une fois parmi nous. Et
merci à vous.
On rappelle que tu es le papa du fanzine 7ème dimension.
Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que des fois, hein, j'ai des messages sur le site internet. On sortira un numéro, c'est promis. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand.
Un jour.
Mais c'est promis, c'est dans les tuyaux. Hein.
Alors, est-ce que tu comptes au moins interviewer des invités du festival Extrême Cinéma?
Et normalement, c'est prévu de me rapprocher. On en discutera de se rapprocher, de faire des choses ensemble.
Ah, voilà, ils sont en train de rédiger là, juridiquement le rapport de collaboration.
On va en discuter. Mais c'est vrai que nous, généralement, on essaye un peu de faire la même chose. Quoi. C'est vraiment le truc entre potes et d'essayer de trouver des réas dont on ne parle pas forcément tout le temps et de mettre en avant certaines choses. Dont on va dire, comme on dit généralement, dont tout le monde se fout, mais nous ça nous intéresse.
Vive la pluralité d'expression.
Exactement.
Bonsoir à tous, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher maintenant pour être en forme à 22h,
ou ceux qui se lèvent, ou ceux qui se lèvent aussi.
Ouais. Et bonjour dans ce cas-là, nous sommes le samedi 17 novembre.
Il est 13h33, merci, ciao, bye.
Merci
bye.
À tous.
Bye. À la semaine prochaine.